Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur.
Garder sa bonne humeur, garder sa bonne humeur.
Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur.
C'est ça le secret du bonheur.
Bonjour et bienvenue dans un autre épisode de Tous les profs en parlent avec Azra
et Stéphanie.
Aujourd'hui, nous sommes vraiment choyés car nous recevons pas seulement un, mais deux professionnels pédagogues chevronnés avec nous et nous allons parler d'un sujet très, très important. En fait, un sujet tabou, mais pourtant qui est si essentiel. Mais avant d'embarquer dans le sujet, j'aimerais bel et bien qu'ils prennent le temps de se présenter. Alors, on vous laisse le plateau.
C'est moi en premier. Ah, merci Laurie. Alors, Jocelyn Dagenais, conseiller pédagogique au Centre de services scolaires des Hautes-Rivières, dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, j'ai trois dossiers principaux. Alors, je suis conseiller pédagogique ici. Je fais un peu de maths aussi à l'occasion, mais surtout aussi un dossier que j'aime bien. C'est pas moi qui le porte tout seul, mais je parle aussi d'évaluation là avec beaucoup de profs et des directions aussi.
On aime ça, on aime ça. Laurie?
Oui, ben je m'appelle Laurie Couture. Je suis conseillère pédagogique à l'école branchée. Mais à la base, je suis une enseignante de français et d'univers social au secondaire. Je suis aussi une maman de deux petites puces qui ont 5 et 3 ans. Et j'ai connu Jocelyn justement dans le cadre de ça, le dossier évaluation. Puis c'est pour ça qu'on collabore maintenant et que je suis ici aujourd'hui. Merci d'avoir invité mon ami.
Ah ouais, merci. Ben, ça me fait plaisir. Est... Merci à Azra
ben
de
oui,
vous avoir invité.
Ben oui, vraiment,
invité.
Merci.
Ben oui, on est vraiment, vraiment heureuse de vous avoir. Surtout que nous aussi, on est des passionnés d'évaluation. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de belles choses à discuter aujourd'hui. En commençant avec notre sujet principal, en fait, on veut parler de l'erreur. Donc, un mot qui fait peur.
Avec la musique. Toi, toi, toi.
Oui, exactement. Là, je m'attends d'avoir bu une gorgée de
oui, oui, c'est ça. Mais effectivement, c'est un sujet primordial. C'est un sujet qui est présent au quotidien, dans les écoles, dans la planification, la pédagogie. Mais c'est un sujet tabou. On se le cachera pas pour les jeunes, pour certains enseignants. Et surtout, tout ce qui est associé vis-à-vis l'erreur, l'anxiété de performance, le manque de confiance, en fait, en lien avec ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sortent de ce sujet-là. Et je suis bien heureuse qu'on prenne le temps aujourd'hui de parler de l'erreur et surtout de l'apprentissage par l'erreur qui, indirectement, est lié à l'évaluation. Donc, ça va être quelque chose de... On déniche ça aujourd'hui, en fait. Ah, ouais. On le fait tous ensemble. Et commençons avec la première question. Est-ce que vous connaissez, en fait, différentes méthodes ou approches pédagogiques qui peuvent être utilisées pour encourager l'apprentissage par l'erreur? Puis, est-ce que c'est quelque chose auquel vous croyez vous-même à cet apprentissage-là par l'erreur?
Ben, mettons que je vais crever l'abcès au début.
On aime ça!
Le mot « erreur », là, il me titille toujours un peu parce que, mm-hmm. Tu sais, mettons que je te demande « c'est quoi une erreur? » Un enseignant. Toi, Stéphanie, j'ai entendu que t'enseignais en chimie.
Et voilà.
Un élève qui fait une erreur, c'est quoi?
Selon moi, l'erreur, c'est d'avoir un processus erroné. C'est-à-dire que l'élève n'a pas encore tout compris. En fait, je suis pas d'accord qu'une erreur de calcul soit une erreur. C'est vraiment une erreur d'apprentissage. Parce que moi j'enlève pas de poils dans mes cours. Fait que moi, c'est vraiment un processus que t'as mal compris que je vais te l'expliquer. Mais les erreurs de calcul, personne va jamais perdre de poils, là.
Parfait. C'est bon. Parce que, tu sais, mettons l'erreur. Il y a comme plusieurs types d'erreurs, là. Mm-hmm. Là je suis allée chercher, là. Il y a des erreurs systématiques, des erreurs aléatoires, des erreurs de négligence. Tu sais, quand on parle d'erreurs de négligence, là, c'était full mon genre, là. Tu sais, mettons que je fais un problème de maths. Je recopie un 4 au lieu d'un 5. Je suis mon problème de maths. J'arrive avec la réponse qui est pas la bonne parce que j'ai fait une erreur de recopie. Mais mettons que on parle, je décide, moi, que je vais rouler 130 sur l'autoroute. Je sais très bien que si jamais je me fais prendre, ben, j'ai fait un mauvais choix. Fait que, tu sais, ça peut être considéré comme une erreur, si on veut.
Mm-hmm.
Mais tu sais, un élève, là, qui est devant une copie d'examen papier ou qui est en tâche finale d'apprentissage, en laboratoire de sciences ou peu importe, en train de résoudre un problème mathématique, il n'a pas les connaissances et les compétences requises pour être capable de montrer qu'il a appris parce qu'il n'a pas appris. Est-ce qu'il est en train de commettre une erreur?
Tout à fait.
Il peut pas faire appel à des choses qu'il n'a pas dans sa tête.
Tout à fait.
Fait que le concept d'erreur, là, il faut le démystifier. C'est quoi une erreur? Sais-tu quand quelqu'un pense qu'il sait puis il fait appel au mauvais processus, comme tu l'as vraiment bien expliqué? Ou c'est juste le fait que nous, comme enseignants, on s'attend à quelque chose, puis l'élève, il a pas fait ce qu'on voulait. Il y a une erreur.
Mm-hmm.
Mais si on s'intéresse à la personne pour laquelle on est là, l'élève, là, s'il a pas la bonne... Il a pas là, la connaissance, il a pas la compétence, il a pas développé, il a pas réussi à monter dans sa courbe. Est-ce que c'est une erreur de sa part de faire appel à ce qu'il a pensé le plus? Au contraire, tu sais, c'est un essai, c'est courageux.
Mm-hmm.
Probablement qu'il était conscient, lui, hein, puis ça a généré de l'anxiété de son côté, là. En tout cas, fait que je te...
Effectivement.
Je sais pas trop, tu sais, je pense à ça, puis je me dis, une erreur, ça sous-entend le fait qu'il y a quelque part, il y a quelque chose que je savais, mais que j'ai décidé de pas montrer.
Effectivement, c'est ça.
Mais je pense qu'il y a aussi, en tout cas, traditionnellement, l'erreur est beaucoup associée à le moment où on fait l'examen traditionnel et l'élève, à la question qui lui est posée, quand le prof va corriger, est-ce qu'il y a bon ou il n'y a pas bon? Donc, ça veut dire que si je mets une question à choix multiple, par exemple, ben à ce moment-là, il n'y a pas le bon... Il n'entend pas la bonne réponse, il y a une erreur. Donc, le calcul, tu sais, là, Stéphanie parlait tantôt de comment elle corrige. Là, tu veux, pour moi, on est ailleurs, là, tu sais, déjà là.
Mm-hmm.
Mais tu sais, je pense que traditionnellement, l'erreur, elle est vue essentiellement comme au moment d'une évaluation qu'on va appeler pour le moment sommative, là, mm-hmm. On va le dire comme ça, mais je pense que c'est vu comme ça. C'est-à-dire que l'erreur, elle est vue dans ce contexte-là. Tu sais, des exemples, bon, c'est sûr que moi, je suis un ancien prof de maths qui a défroqué vers la conseillance pédagogique. Mais, tu sais, il y a une pratique que j'ai vue passer un moment donné sur Edutopia, ça s'appelait My Favorite No. C'est-à-dire que la prof, à un moment donné, puis je pense que c'est une pratique qui pourrait être utilisée dans différentes disciplines, c'est-à-dire qu'elle met un problème de maths au tableau et là, elle passe un papier à chacun des élèves. Les élèves font la résolution et après, ils remettent le papier au prof et ils vont... et elle fait deux piles. Une pile yes, une pile no. Et je fais ça exprès pour toi, Azra, parce que j'ai dit genre, ça prend un petit peu d'anglais dans le podcast. C'est de dire,
oui, l'inclusion.
Il faut faire plaisir. Oui. Quand on est invité.
Mais j'ai pas fait la chimie, t'as pas
on est correct.
Vous avez le plateau maintenant.
C'est parfait. Fait que là, fait qu'elle a fait deux piles, puis là, ben, elle dit my favorite no, c'est-à-dire qu'elle va dans pile de no, elle va choisir le meilleur exemple qu'elle veut utiliser pour analyser l'erreur avec les élèves.
La pile de no, c'est les gens.
La pile de no, c'est les.
Ils ont eu la bonne réponse.
Ouais, fait que, tu sais, elle va utiliser ce contexte-là pour aider, tu sais, pour travailler avec les élèves l'erreur.
Ouais.
Donc, je trouve que ça, c'est un exemple. Tu sais, puis, on n'a pas besoin de réinventer la roue. Tu sais, des fois, de travailler l'erreur avec les élèves, tu sais, de dire, tu sais, dans beaucoup d'examens, là, on va pas les nommer, là, mais dans beaucoup d'examens ministériels, il y a des questions à choix multiples.
Ouais.
Des questions à choix multiples, pardon. Et là, ben, de dire, souvent, quand on demande aux élèves de répondre à ces questions-là, on leur demande de trouver la bonne réponse.
Ah, puis c'est la section la moins, ouais, la moins réussie, là.
De dire, si on les habitue, tu sais, de dire, si on veut pousser le raisonnement des élèves, de dire, OK, c'est sûr que l'objectif, c'est de trouver la bonne réponse. Mais moi, j'ai dit, poussons le raisonnement, puis demandons aux élèves, ta première question, c'est de trouver la bonne réponse. Mais après, pourquoi tu te demandes pas comment...
Pourquoi les autres sont pas bons?
Ouais, mais quoi? Genre, pourquoi les autres, c'est des erreurs? Ou, tu sais, de dire, de voir cet aspect-là puis de faire travailler les élèves dans le sens où ils sont capables de détecter les erreurs. Tu sais, même au niveau de la résolution de problèmes, souvent, on va faire demander aux élèves de résoudre des trucs et de trouver la bonne réponse. Tu sais, de dire, mais moi, souvent, ce que j'aimais faire, c'est de donner des résolutions déjà faites.
Mm-hmm.
Mais avec des erreurs.
Oui.
Et il faut identifier, tu sais, de dire, l'erreur, là, il faut, je pense, il faut marteler avec les élèves que c'est un processus normal dans l'apprentissage.
Oui.
L'objectif, c'est pas d'être parfait du premier coup, là, tu sais, oui. C'est sûr que c'est le fun quand on est toujours bon du premier coup, ben, de dire, puis souvent, moi, je leur dis, écoutez, là, quand vous embarquez sur votre vélo, là, puis qu'on a enlevé deux petites roues, là, en arrière, là, j'ai dit, est-ce que vous avez pédalé du premier coup tout de suite ou vous êtes tombé après 15-20 mètres? Ben c'est ça. Tu sais, je veux dire, ça prend des erreurs, ça prend l'équilibre, vient avec le temps, puis on s'habitue de ces erreurs-là, de dire, on comprend comment garder son équilibre. Mais je pense que c'est dans n'importe quoi, là. C'est comme quand on apprend à marcher.
Oui, oui.
Tu sais, je veux dire, l'enfant qui apprend à marcher, je suis sûr que son cerveau, il se dit, OK, il y a des erreurs, tu sais, quand je fais ça, je plante par en avant.
Oh oui, puis cette pédagogie-là de, j'adore que t'amenais un exemple concret où est-ce que toi t'amenais des feuilles avec des erreurs déjà. Ça, c'est vraiment une belle pédagogie d'apprentissage par l'erreur.
Oui.
Je faisais de même dans mon cours, je faisais montrer, par exemple, quelque chose en lien avec la grand-mère spécifique et deux semaines après, je sortais un texte avec des erreurs dedans. Et c'était presque excitant pour eux autres de trouver des erreurs dans le texte parce que là, ils allaient chercher, ils disaient, OK, on a appris ça. Qu'est-ce que, ben, quelque chose qui est un petit peu plus en profondeur qu'un apprentissage. Et je pense qu'on met pas assez de l'avant, malheureusement, les erreurs devant les élèves. Justement, comme Laurie, tu l'expliques, on l'explique pas assez ce que c'est l'erreur. Parce que pour eux, des fois, les élèves, ils ont la mauvaise perception que l'erreur, c'est des moins.
On enlève des points à l'évaluation.
Exactement, c'est des choses qu'ils ont pas compris. Ils sont pas capables de concevoir que l'erreur, c'est une constatation de comment faire mieux, comment apprendre, qu'est-ce que t'as appris, qu'est-ce que t'as pas appris. Fait que je pense que ce concept-là, comme tu l'as mis de l'avant, j'adore, en fait, qu'il faudrait aussi mettre l'accent à enseigner les différentes erreurs aux élèves pour que eux, par eux-mêmes, peuvent prendre position et dire, OK, ça, c'est une erreur à cause de telle chose. Ça, c'est une erreur parce que finalement, j'ai pas compris comme je pensais avoir compris. Ou ça, c'est une erreur de rapidité. Même nous, quand on fait des erreurs, on
sait. Qualifier l'erreur.
C'est ça.
Les erreurs majeures, mais non, mais moi, le mois passé, j'ai fait une erreur devant, puis je l'ai expliqué aux élèves parce que j'avais un country. Puis il fallait optimiser une situation. Là, j'avais, tout allait bien. Là, mon élève a découvert une manière meilleure que moi d'optimiser. Fait qu'au lieu de mettre ça de côté, ben, j'ai célébré mon erreur. Fait, moi, j'avais trouvé, que le gain, ben, minimal était 18. Mm-hmm. Il y a un élève qui a trouvé 17 et 30. Elle a été meilleure que moi pour optimiser. Bravo. Puis j'ai célébré mon erreur, j'ai fait ça arrive, tu sais. Puis les élèves étaient comme ah ben ok, c'est possible.
Mais je pense que ce qu'il faut, c'est d'utiliser toutes les opportunités qu'on a pour que les élèves voient, tu sais, de que ce soit dans des, tu sais, bon, dans mon domaine, dans ma discipline en maths, tu sais, de trouver les moments où je peux montrer aux élèves c'est quoi faire des erreurs. Et qu'on peut apprendre de ces erreurs-là. Mm-hmm. Parce que c'est ça que je veux que les élèves retiennent.
Vraiment. Je pense qu'il faut que tu fasses attention au moment où est-ce que tu montes ces erreurs-là dans la courbe d'apprentissage. Si, mettons qu'on prend là, le beau tableau de la taxonomie de Bloom, là. Tu sais, quand les élèves sont au début, là, tu sais que ça casse à ton compréhension, ils n'ont jamais vu ce que tu es en train de leur montrer. Là.
Ouais, ouais.
Ils n'ont pas encore l'analyse logique de voir que ça, cette résolution-là algébrique, le tu sais, d'envoyer le X dans un bord, puis je rappelle à mes vieilles connaissances de ce mais tu sais, quand ils n'ont pas encore les connaissances, les compétences requises pour être capable de comprendre que c'est une erreur, tu sais, le cerveau, lui, il n'est peut-être pas capable de dire, OK, ça, c'est une erreur. Il prend quand même une photo, il voit quelque chose.
Il trace un chemin.
C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, pour confronter l'élève, je pense, à certaines erreurs comme ça, quand ils sont rendus à un certain point dans l'apprentissage, où est-ce qu'ils ont les compétences pour remarquer cette erreur-là? Puis il faut se questionner. Si l'élève ne la voit pas, tu dis, oh, OK. Ça veut dire que lui, là, en lien avec son processus, il est pas rendu là. Puis de faire comme, mais c'est pas grave si t'es pas rendu là.
Mm-hmm.
Dire, mettons qu'on part du même point, là, puis que ton char, il a moins de gaz que le mien, ça se peut qu'il faut que t'arrêtes de tanker, là.
Tout à fait.
Est-ce que ça va être grave que t'arrives plus tard? Ben non. Parce que il a fallu que t'arrêtes de mettre du gaz, c'est normal. Mais pourquoi, en tant qu'enseignant, on comprend, on a de la difficulté, hein, mais ça reste que c'est notre quotidien, ça. D'avoir un programme, d'avoir une progression des apprentissages, d'avoir des choses à voir avec nos élèves, de les amener à, on dit toujours, le but, c'est de les prendre à un point A puis de les amener à un point B. Sauf que, ils ont pas toutes le même point A, puis ils ont pas toutes le même point B.
Pas du tout.
Puis le chemin entre les deux, il n'est vraiment pas le même pour tous.
Parce que le chemin, ça va dépendre de la voiture dans laquelle tu es, des outils auxquels tu fais, tu sais, puis il y a comme un bagage entre avec des humains. Puis c'est plate parce que, tu sais, on prend ce qu'il y a en haut. On prend le programme, la progression, puis on le fait descendre dans notre classe. Mais moi, j'aimerais ça voir, OK, on va prendre ce que nos élèves ils connaissent, puis comment, jusqu'à où ils peuvent monter.
Effectivement.
Tu sais, essayer de leur donner une poussée au lieu de tirer vers où est-ce qu'il faut qu'ils se rendent. Puis c'est correct qu'il y en ait. Il faut qu'il y ait un programme, il faut qu'il y ait une progression, puis il faut que les élèves aient des connaissances puis des compétences pour être diplômés, c'est normal. Parce que on a reconnu avec le diplôme, mettons, on parle de la sanction des études, là, ça veut dire qu'on est au secondaire. On a reconnu au Québec, tu sais, la sanction des études secondaire 5, donc des élèves de 16-17 ans. Quand ils ont leur diplôme de secondaire 5, c'est qu'ils ont acquis un certain nombre de connaissances, de compétences reliées à des domaines particuliers. On a décidé en tant que société que les maths de secondaire 4 étaient suffisantes pour avoir un diplôme d'études secondaires. on a des, tu sais,
mais encore là, il y a des grandes variantes, là.
Ben oui.
C'est ça qui est en plus dérangeant. Il y a vraiment pas une équité dans les apprentissages. Puis, en 80% à Montréal n'est pas un même 80% à Québec. Exactement. On pourrait en parler longuement.
Ouais, mais on pourrait parler de, au B217 et au B215, ouais, le 80 et pas, mais ça.
Exactement. Oui, oui, effectivement. Parce que c'est des choses.
J'ai mon diplôme d'université. Mais la personne à côté de moi, là, qui a passé ses cours, ça a fait, ça l'a aussi.
Mm-hmm. Non, mais c'est ça.
Est-ce que ton diplôme témoigne vraiment d'une maîtrise? Mais là, on va loin, là. Tu sais, on ira pas là. C'est pas le but. Mais c'est juste.
On s'éloigne de l'erreur.
Faudrait faire 10 séries, là.
c'est ça.
Mais le but, c'est juste de. Mettons qu'on ramène ça au point de départ, qu'on parle de l'erreur, là. Tu sais, quand tu disais tantôt, tu as célébré ton erreur. Puis, tu sais, les erreurs, ils font partie du parcours. En fait, c'est juste de montrer à l'élève, c'est que c'est pas lui, l'erreur. Souvent, c'est ça.
Vraiment.
C'est OK. Pas assez bon pour faire.
Oui, parce qu'il associe automatiquement, c'est une réaction émotionnelle qui est vive vis-à-vis l'erreur. Là. C'est pas du tout cognitif, là. C'est émotionnel.
Ben non, puis souvent, quand ils sont plus jeunes, ils veulent tellement plaire. Ils veulent que les parents soient fiers, que l'enseignant les aime, qu'ils veulent pas être l'élève dans la classe qui a de la misère parce que là, les amis. Tu sais, il y a aussi tout le côté humain derrière ça, là, le fait d'être accepté, d'avoir un sentiment de compétence, un sentiment d'être apprécié. Fait qu'il faut que composer avec ça. Puis le mot erreur, il y a une connotation scolaire, mais pas juste ça. Là, dans la vie aussi, t'en
as ouais, c'est ça.
En
c'est
général, là.
Puis, tout à fait.
Moi, je vois. Écoute, c'est comme le mot erreur, c'est comme le mot problème en mathématiques, tu sais. Je me rappelle d'un sketch de Gad Elmaleh. Tu dis comment c'était. Non, mais c'est parce qu'il disait. Puis tu comme. Non, mais c'est un humoriste, là.
Qui
disait, ben.
Non,
ben, je sais pas quel âge qu'il y a. Il doit avoir proche mon âge, là.
C'est ça.
Un jeune.
Non, moi, j'avais pas de référence.
Ah, ouais, c'est ça. Puis, il disait que, tu veux, quand tu commences à l'école, au primaire, en mathématiques, tu commences ta vie avec des problèmes. Tu sais, je veux dire, le mot a une connotation particulière, tu sais.
Mm-hmm. C'est drôle parce que quand on rencontre les élèves, maintenant, on leur dit, bon, les principaux défis auxquels tu fais face. Mais quand on les corrige, quand on dit, ben là, t'as fait une erreur.
Ouais, ben, c'est ça. Moi, je trouve que c'est une erreur, mais, tu sais, je trouve que c'est ça. Il y a comme un autre endroit où j'ai pas parlé tantôt, tu sais, j'ai donné les exemples en mathématiques, mais tu sais, avec la technologie maintenant, tu sais, en programmation, je veux dire, quand tu fais un programme informatique, tu commences à coder avec par bloc ou, tu sais, dans Scratch ou peu importe l'outil qu'on veut utiliser, tu sais, ça va générer, c'est-à-dire, tu vas mettre tes blocs, ça va pas faire nécessairement ce que tu veux. Ça génère une erreur. Tu sais, je veux dire, ça génère une erreur. Mais là, tu essaies de comprendre, tu sais, ton code informatique, de dire, OK, pourquoi ça génère une erreur? Mm-hmm. Tu apprends, tu sais, je veux dire, cette erreur-là, de dire, OK, tu as comme une rétroaction, parce que, tu sais, là, on n'a pas parlé, mais pour moi, l'erreur, il y a comme, ça sent rien, là. Je mets comme la table pour parler de la rétro, parce que je veux dire, quelqu'un qui fait une erreur puis que personne ne donne de rétro, je veux dire, ça sert à quoi de faire une erreur?
Effectivement.
Fait que, ton programme informatique, c'est un peu le même principe. Mm-hmm. Si ton programme, tu dis, tu payes, tu sais, dans Scratch, tu payes sur le petit drapeau vert pour le faire rouler puis que ça fait rien, tu as une rétro, tu dis, OK, il y a quelque chose qui marche pas. Tu as une rétroaction, ça veut dire, OK, j'ai une erreur, mais faut que j'essaie de trouver, elle est où mon erreur? Mais c'est un peu le même principe. Un élève qui fait des... On va utiliser le mot erreur parce qu'on est là-dedans, mais dans les apprentissages scolaires.
L'élève qui ne fait pas appel aux bonnes compétences.
Oui.
Bon, vraiment, j'aimerais ça que tu te corriges.
L'élève qui est en train d'apprendre.
J'avoue, oui, ouais, c'est ça.
L'élève qui est en processus d'apprentissage.
C'est ça. OK, excusez, là. Non, mais c'est ça, il faut donner de la rétro.
Ben oui.
Ben moi, j'aimais bien la stat qui disait que pour un apprentissage optimal, il faut que tu aies un 85% de réussite, un 15% d'erreur. Parce qu'un élève qui a 100% apprend pas de manière très vite parce que il fait pas d'erreur. Donc, ça veut dire qu'il est pas en apprentissage. Fait que, tu sais, là, on s'entend que c'est une stat assez globale, là.
Ouais.
Mais c'est pour montrer le fait qu'en travaillant sur l'erreur, l'élève qui fait des erreurs puis qui apprend puis qui analyse l'erreur, mais il va apprendre beaucoup plus vite et mieux qu'un élève qui fait tout le temps pas d'erreur parce que techniquement, il est pas en apprentissage. Il est plus en démonstration.
Mais Stéphanie, il fait pas d'erreur par rapport à quoi? Tu sais, je veux dire, quand on dit, là, je veux dire, un élève qui fait, tu sais, mettons, nos élèves, on va dire, les dire performants, là. Je veux dire, il fait pas d'erreur par rapport à des contenus théoriques que qu'un prof a enseigné, puis il est capable de, je vais le dire, de faire le perroquet par rapport à ces apprentissages-là sur une feuille d'examen. Il est capable de reproduire textuellement ce que le prof a enseigné dans son cours. C'est-à-dire, pas faire d'erreur pour moi.
Mais ça dépend, c'est quand.
Oui, mais.
Je savais pas, c'est qu'est-ce que t'évalues, tu sais.
Mais ouais, en début d'apprentissage.
C'est ça, fait que c'est là que l'évaluation rentre en
exactement.
Compte.
Exactement.
En fait, c'est un cycle, c'est pas juste à la fin de l'étape.
C'est
itératif, là. L'élève peut y aller, peut revenir, peut descendre. Effectivement. Peut monter, tu sais. Puis, je pense que notre job comme prof, c'est de normaliser ça.
Effectivement.
Parce qu'on est toujours à. Faut que tu atteignes le but. Ultime, c'est d'atteindre le sens.
Okay, mais le problème, c'est que pas tout le monde peut le faire. Donc,
non,
ça veut dire que
pas tout le monde
c'est pas ça qu'on veut non plus.
Mais c'est drôle parce que c'est ça qu'on demande. Puis, tu sais, mettons, l'autre fois, j'avais la discussion avec un ami, collègue. On parlait des échelles de compétences, mettons. Puis là, je disais, mettons, toi, tu donnes 100% à ton élève. Là.
Mm-hmm.
Est-ce que 100% à ton élève, c'est quelqu'un. Mettons, 100% de. Tu donnes 100% à Stéphanie. Est-ce que c'est parce que Stéphanie. Elle a dépassé tes attentes ou c'est parce que Stéphanie, elle a atteint le minimum que tu demandais? Elle était comme, ben non, 100%, c'est parce que, tu sais, t'es hot, là. Oui, t'es hot, je comprends. Mais mettons, c'est drôle parce que le but ultime, c'est d'avoir 100%. Mettons. Si tu veux, on met ça sur
100. Veut, non, mais on veut tous les élèves être 100%.
Exactement.
On veut tous qu'il y ait 100%.
Mais le 100% varie d'un prof à l'autre. Moi, je me souviens très bien d'un examen secondaire 3 où est-ce que ma prof m'avait donné 98 parce que ça ne pouvait pas être parfait.
Oui, puis effectivement, on...
Puis c'est bien correct, mais j'étais comme... Mais pourquoi tu le mets sur 100, mon examen, si c'est impossible que j'aille 100?
Oui.
Je veux dire, c'est quoi le but de mettre un chiffre? Dis-moi que j'ai réussi, tout court. Fait, puis c'est aussi tout le défi comme prof de montrer que l'élève... Si, mettons, je prends une preuve d'apprentissage en cours de parcours, je m'attends très bien à ce que ça soit pas parfait. Aujourd'hui, le gang, là, je vais aller vous voir, puis je vais discuter avec vous autres, puis je m'attends à ce que vous me dites, là, ça soit pas... excellent. Que ce soit pas tout ce que moi, je m'attends de quelqu'un qui a appris, parce que vous êtes en cours d'apprentissage. Mais moi, comme enseignant, je veux discuter avec vous autres pour savoir, là, dans les prochains cours, là, sur quoi je mets le plus d'accent. C'est d'être transparent. Moi, je trouve qu'on parle pas assez avec
vous. Ben, en fait,
vous autres, on sent-tu où est-ce qu'on s'en va, mais
c'est aussi mettre de l'avant sur, on avait parlé justement pour nos auditeurs qui nous écoutent, pour donner des conseils également par rapport à avoir une pédagogie, l'apprentissage par l'erreur. Mais je pense que c'est aussi mettre de l'avant l'auto-évaluation auprès des élèves pour qu'ils puissent, justement, c'est une...
C'est un exemple parfait. Les mal-aimés, on appelle les mal-aimés de l'évaluation. On parle d'auto-évaluation.
C'est les rendre conscients ou est-ce qu'ils sont rendus dans leur processus d'apprentissage? Puis malheureusement, il ne s'est pas assez mis de l'avant, ni au primaire. Les enseignants, on dirait qu'ils ont peur de l'auto-évaluation.
Non, ils n'ont pas peur. Moi, je peux dire que c'est une perte de temps.
Ben voyons.
Pour ça qu'on dit les mal. Tellement... Oh oui, nous là, auto-évaluer.
Apprivoiser les mal-aimés de l'évaluation.
Puis là, c'est l'auto-évaluation, l'évaluation par les pairs, puis la rétroaction.
Oui.
Mais c'est parce qu'on a toujours l'impression qu'on perd du temps à faire une rétro à l'élève parce qu'il nous lit pas. Mais au lieu de se dire, tu mettons, moi je suis en français, je corrige une belle production écrite. Les critères 1 et 2 sont en bleu, les critères 3 et 4 sont... Tu sais, on a comme 5 critères quand on corrige le français, mais j'imagine, je sais pas en anglais, vous autres, comment...
Oui, c'est la même chose.
C'est le même genre de gris, j'imagine.
Tout à fait.
Puis là, on corrige. Puis là, après ça, on se dit, l'élève va tout voir ça, moi, que j'ai corrigé en bleu, fait qu'il y a plus de bleu. Moi, je prends pour acquis qu'il va comprendre que là, lui, son défi, c'est dans le critère 2. Puis le critère 1. Puis après ça, je vais lui écrire des mots. Puis lui, il va lire ça, puis il va comprendre, puis il va réinvestir.
Oui.
Et voilà. C'est facile comme ça. Sauf que l'élève, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder
tout à fait.
Sa copie. Il va voir un paquet de stylos, puis il va dire, c'est ça, je suis pas bon.
En fait, je vais pas prêcher pour ma paroisse, là, mais chez Zélectio, en fait, c'est la fonctionnalité.
C'est quoi ça,
Zélectio, non? Oui, c'est ça, exactement. C'est la fonctionnalité qui est la plus appréciée auprès des enseignants parce que nous, on a la fonctionnalité de cacher les notes. Fait que dans le fond, il y a une rétroaction qui est faite à l'élève directement selon le critère, l'indicateur observable, ainsi de suite. Et là, il y a le commentaire de l'enseignant et c'est lui qui décide quand il va dévoiler la note.
Ou pas.
Donc, il peut garder la note que lui, il voit la moyenne, l'élève ne la voit pas et lui va recevoir un avis dans le fond qui lui dit que l'élève a pris le temps de lire la note. Sans qu'il sache dans où est-ce qu'il se situe exactement, et là, il peut le débloquer. Donc, ça, c'est vraiment apprécié. Ça démontre qu'il y a vraiment un besoin qui est là. Et là, les anciens disent, oh my God, c'est donc bien le fun, parce qu'il n'y a rien de plus insultant pour un enseignant qui prend le temps de faire une rétroaction de 10, 15 minutes, on a tous passé par là, et l'élève, il regarde la note, il met ça à récup. Ça. Et moi, écoute,
il y avait quelque chose, allez, je veux pas l'oublier, il y avait quelque chose que je voulais dire par rapport à l'erreur de tantôt. Tu sais, il y a une phrase, non, mais c'est parce que je veux être sûr parce que j'y ai pensé, puis je me disais, tu sais, souvent, je dis, quand on fait les bulletins pour les élèves, on dit à l'élève, tu sais, souvent quand on fait des examens traditionnels et la note de bulletin et le cumul un peu de ces examens-là, tu sais, puis ce qu'on envoie comme message à l'élève, tu sais, c'est de dire, faut que tu sois compétent le 12 février, le 8 avril, faut que tu sois compétent une date dans le calendrier. Ben, c'est le même principe avec l'erreur. C'est-à-dire, on dit à l'élève, tu ne dois pas faire d'erreur le 8 avril. Tu ne dois pas faire d'erreur le 12 février. C'est ça qu'on y dit. Tu sais, quand on est dans une évaluation de plus traditionnelle comme ça, avec des examens, mettons, ben de dire, on est comme barré, de dire, OK, c'est cette journée-là, je dois être parfait cette journée-là.
Mais si on changeait le vocabulaire, ça serait niaiseux, là. Mais tu sais, moi, comme prof, dans ma tête, je sais très bien que cette journée-là, ils vont avoir un examen et que je ne veux pas qu'ils fassent d'erreur. Moi, je le sais dans ma tête. Mais là, on est avec des enfants de 12, 13, 14, 15, 16, 17 ans. Là.
Des humains.
Même
des
point.
Des humains, point.
Puis là, on leur dit, hey, le 12 février, là, on va s'arrêter. Je vais vous donner un défi. Puis j'ai hâte de voir jusqu'à, tu sais, qu'est-ce que vous allez me montrer cette journée-là. Au lieu de dire, bien, il y a un examen, puis étudie la veille parce que là, ça prend 60 % pour passer. Moi, je pense qu'il y a aussi toute cette idée de connotation négative de certains mots qu'on utilise.
Ben, c'est le mot erreur, tu sais, admettons. Moi, dans mon enseignement, les élèves, j'ai des discussions avec eux, puis c'est eux qui analysent leurs résultats avec mon jugement professionnel, mais avec toutes les rétroactions que j'ai données. Mais l'élève, là, lui, il sait, mettons, il dit « Ah, j'ai un B », parce que un B, ça veut dire que j'ai besoin un peu d'indices, mais je suis capable de faire mon processus correct. Mon C, j'ai besoin d'explications, mais il est capable de se dire pas donner un C, parce que...
Est-ce que tu l'as enseigné?
Mais... L'élève est capable de l'apprendre, là, d'avoir un processus. Puis l'avantage, c'est que dans leur vie, ça va être bien plus pratique. Moi, mon élève, là, qui a C+, là, mais qui est content, puis il dit, hey, j'ai fait ça, j'ai fait cet apprentissage-là, puis j'ai un C+, mais je le comprends, mon C+.
Ça, là, exactement, je pense qu'il faut viser quand on parle d'erreur. Si l'élève, là, il accepte que des fois, il n'y aura pas la bonne réponse parce que lui, il n'est pas rendu là, mais qu'il célèbre le fait qu'il est peut-être rendu ailleurs. Puis qui sait que ça, c'est sa prochaine étape? C'est vrai ça? Je viens de l'expliquer.
Oui.
L'erreur, là, devrait être juste normale pour certains élèves qui, eux autres, savent très bien qu'à cette question-là, ne seront pas capables de répondre.
Oui.
Puis que ça soit correct pour eux de ne pas être capables de répondre.
Puis c'est pour ça aussi que ça prend des traces diversifiées.
Oui,
ça prend de la triangulation des traces. Ça prend de la triangulation. Oui. C'est-à-dire que si tu fais juste vérifier comment l'élève comprend avec un seul type de trace, je pense que tu n'as pas le portrait global et complet de ton élève. Je pense qu'on est là.
En fait, on n'est pas en fidélité.
Effectivement.
Ce qu'on aime, nous autres, quand on prend le temps d'évaluer nos élèves, qu'on prend une trace, là, qu'on va chercher des données de où est-ce que nos élèves sont dans nos apprentissages. De un, comme prof, tu veux être sûr que ce que tu vas voir, c'est ce que tu as observé comme toi, comme prof, ce que tu as entendu quand ils ont travaillé, parce qu'idéalement, tu sais, je veux dire, tu es passé en avant en train de regarder tes courriels quand tes élèves travaillent. Hop, je l'ai dit.
Ah non? Ah, oh, excuse.
Faut faire couper ce poste.
Oui, oui, oui.
Mais tu sais, je veux dire, tu circules, tes voix, tu sais, t'es actif, toi aussi.
Ce qu'on appelle marcher sa classe.
Oui, bien, effectivement. C'est vrai, ça a un beau petit nom.
C'est ça.
Mais tu sais, je me dis, mettons que tu regardes la grille. Oups, j'ai accroché mon micro. Mettons que tu regardes la grille, puis là, tu te dis, mon Dieu, mais semble lui, j'ai jasé avec, puis il comprenait bien. Puis finalement, à l'examen, ça n'a pas marché. Je me souviens, moi, la première fois que j'ai décidé de prendre des traces orales de mes élèves, c'est-à-dire que j'ai discuté avec eux, que je me suis fait un beau petit formulaire, puis que j'ai coché des compétences que j'avais choisies. Bref, vous viendrez à notre atelier à l'ECOPS. Mais j'en disais avec mes élèves, puis je me disais, là, lui, il a compris, mais quand il fait son examen, c'est pas fidèle.
Ben, il y a le stress de l'examen, là.
Oui, effectivement.
En fait, c'est pas
le décodage. Certainement. C'est le vocabulaire. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est s'il est capable de m'expliquer pourquoi Rome a chuté. Puis ça a commencé directement en histoire. L'élève, là, il était pas. Je regardais mes résultats en histoire, puis je capotais, puis je parlais avec mes collègues. Tout le monde était dans le même bateau que moi. Je suis allée suivre des formations, puis je me suis dit, ben là, il y a sûrement moyen que je sois capable de valoriser ce que les élèves font en cours d'apprentissage. Je m'assieds avec Stéphanie, je donne encore, parce que c'était en face de moi. Je m'assieds avec Stéphanie, je demande pourquoi Rome a chuté.
Parce que c'est sa préférée.
Ouais, c'est ça.
Moi, la seule façon que je peux t'expliquer que Rome a chuté, c'est avec ChatGPT, parce que je m'en rappelle pas partout.
T'es vraiment.
Je le sais, mais bon.
Mais mettons que j'ose avec Stéphanie, puis elle m'explique, ben là, mais au niveau économique, ça marchait plus. Puis là, l'empereur, il a séparé ça en deux avec les deux frères. Puis là, ils ont été ils se sont fait envahir. Elle me l'explique. Je suis comme, ah, c'est bien cool. Parfait.
J'avais tout compris ça, moi.
Ben, je sais. Elle a tout compris ça. Elle a l'air d'une fille qui a compris ça. Puis, quand j'arrive à l'évaluation, même question, papier, Stéphanie n'y arrive pas.
Effectivement.
Est-ce que moi, ce que j'évalue, c'est sa connaissance, sa compétence à m'expliquer les causes de la chute de l'Empire romain ou c'est le fait de répondre à la question telle qu'elle est posée comme elle est écrite?
Et là, ça va être calculé comme une erreur, en fait.
Exactement. C'est ça. Et ça va venir déboussoler l'élève. Les compétences.
Non. Effectivement.
Et les connaissances. Mais elle a fait appel au mauvais processus au moment où est-ce que moi, j'ai
c'est exactement ça.
Il fallait qu'elle fasse appel.
Effectivement.
Fait que là, comme enseignant, la triangulation vient vraiment donner un beau pouvoir de redonner à l'élève ce qui lui est dû, en fait.
Puis, tu sais, la triangulation, là, souvent, peut-être pas pour s'étirer là-dessus, mais...
Ben,
notre ami là, mais c'est quand même important. Oui, c'est important. Ben, tu sais, puis souvent, moi, j'ai une petite diapo quand on présente souvent. Puis quand je vais présenter avec le rapport, écoute, dans le rapport parent de 1964, c'était écrit, écoute, textuellement, que les examens, ce n'est pas nécessairement les seules traces sur lesquelles on devrait s'appuyer.
Vraiment. 1964?
64, qu'on disait ça. Et là, puis ça, ben, quand je fais lire ça aux profs, tu sais, de dire, on lit ce bout-là du rapport parent, puis là, je leur dis, tu sais, dans votre formation, ou même quand vous avez commencé à enseigner, qui vous a dit que ça prenait des examens pour évaluer les élèves?
Mm-hmm.
Personne vous a dit. Tu sais, puis à chaque fois, les profs répondent, jamais personne nous a dit ça, mais on le fait tout.
Mm-hmm.
Puis là, j'ai dit, pourquoi on le fait tout?
Mais c'est
plat. Mais puis c'est pas pour démoniser,
c'est un réflexe.
Je dis pas ça pour démoniser les examens, ça en prend des examens. Puis je vais faire référence à mon ami Grant Wiggins aussi qui parle de ça, qui dit que c'est un bon examen a sa place parmi d'autres traces.
Effectivement.
C'est pas pour enlever les examens, mais c'est juste de dire ça en est une parmi tant d'autres, ça n'est pas les seules.
Une panoplie de traces.
Puis moi, tu sais, je reviens à ce que je disais au début, c'est moi je pense que l'erreur elle est beaucoup associée avec les examens. Je pense que c'est de là, tu sais, de dire...
Effectivement. Mais c'est juste essayer de couper, en fait, cette stigmatisation-là négative que les élèves amènent à l'erreur. Tu sais, c'est un peu... Oui, il y a des enseignants qui vont faire une évaluation, auto-évaluation par les pairs. Ils vont le mettre de l'avant. Moi, je prends l'exemple, même pas comme enseignante, comme mère. Ma fille va revenir avec les examens, elle va avoir sa note, elle est au primaire, et là, je vais lui poser la question, OK, qu'est-ce qui s'est passé ici? Le joueur qu'elle a perdu des points, puis elle a dit « Je sais pas. » Là, je dis « Ben, on va essayer de lire les commentaires. » Et son enseignante va faire des commentaires vraiment développés, là, on va le lire, et je dis « Est-ce que tu comprends? » Puis elle me regarde et dit « Non, je comprends pas. » Fait que c'est là que je constate qu'elle a reçu une note, puis elle dit « Ben, je vais m'essayer la prochaine fois. » Mais je dis « Comment tu vas t'essayer la prochaine fois quand tu sais pas c'est quoi ton erreur? »
Fait que, tu sais, il y a comme... enseigner la grille.
Effectivement, ouais, puis c'est un peu là que la discussion, elle a embarqué. Merci de l'ouvrir, parce que j'ai dit à ma fille, la première chose, j'ai dit « T'as-tu regardé ta grille? » Puis elle me dit « Quelle grille? »
Ouais, est-ce que je connais la grille?
Ben, effectivement.
Est-ce que tu sais s'il y a
de grille? Et là, la grille se trouvait complètement à l'endo de son évaluation. Et là, je dis « Est-ce que votre enseignante a fait le survol de la grille avec vous? » Elle dit « Non. » Et là, je vais « Attends un peu, elle n'a pas fait le survol de la grille avec vous autres? » Elle dit « Ben non, maman, je ne sais pas c'est quoi ça. » Elle voyait qu'il y avait des choses encerclées. Et c'est là que j'ai constaté, je dis « Attends un peu, il faut vraiment prendre le temps. Je pense qu'on prend pour acquis. » Des fois, la capacité d'apprentissage d'un élève au primaire vis-à-vis une grille. J'ai l'impression que la grille, on la donne aux parents versus à l'élève parce qu'on ne veut peut-être pas prendre le temps ou c'est trop long ou c'est aussi mal aimé. Je ne sais pas si les grilles, ça en fait partie.
Pourtant, les élèves vont mieux comprendre la grille que certains parents.
Effectivement. Construis-la avec tes élèves, ta grille.
Ben, c'est ça. Ça, c'est un excellent exemple.
Oui, mais souvent, tu sais...
Puis fais-la avec eux autres.
Sauf que les grilles ministérielles, des fois, ils sont un peu... c'est du charabia pour des enseignants.
Jocelyn, il vaut combien l'examen du ministère à la fin de l'année?
Non, mais je te parle... Non, mais je te parle... Non, mais les grilles ministérielles...
Mais
on peut les adapter.
Non, mais c'est parce que c'est les mêmes grilles qu'on a toute l'année. C'est pas
juste les mêmes. Oui, mais ça, c'est pas...
Les grilles ministérielles, c'est les grilles qu'on est de nos cadres d'évaluation qu'on est obligé obligé d'utiliser.
Mais qu'est-ce qui t'empêche de la vulgariser?
Ben, moi, j'en fais.
Ou de,
ça,
la,
ça,
de l'adapter.
Moi, j'utilise pas avec un grille du constant toute l'année. Là. Moi, j'utilise une grille par évaluation différente en mathématiques.
Mais toi, tu le sais à quoi ça fait référence à la grille du ministère. Oui, ça, les élèves ont même, besoin de le savoir.
Moi, effectivement. J'utilisais, c'est parce que ça devient un peu lourd.
Pour oui, mais ça devient un outil d'apprentissage.
Oui, oui, c'est ça. Mais je pense que comme Azra dit, ces grilles-là ne sont pas assez connues des élèves.
Ben effectivement.
Tu sais, je veux dire, moi, quand j'enseigne en secondaire 3 puis que tu présentes ça aux élèves, la grille pour la compétence 1, la compétence 2, puis les élèves disent, monsieur, vous êtes le premier à nous parler.
Effectivement,
de ça.
C'est
tu
ça.
Tu dis, on a
c'est
un problème.
Ça,
là, ça fait 9 ans qu'ils sont à l'école et qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça. Là,
effectivement.
Bon, on en prend, on en laisse des fois ce que les élèves nous disent, mais c'est, je pense que c'est.
Ah non, c'est, il ouais, faut que tu apprennes. Ah,
oui,
puis. Ils sont passés à secondaire 1, je leur parle de schéma narratif. Je sais très bien qu'ils l'apprennent depuis la troisième année du primaire. J'ai même vu ça, madame.
Mais
effectivement, c'est que je pense qu'on met pas assez de l'avant. C'est sûr qu'il y a des oublis à travers ça, mais on met pas assez de l'avant, justement, les c'est pas assez clair, le cadre d'apprentissage. C'est pas assez vulgarisé auprès des jeunes parce qu'on se dit, ben, ils comprendront pas la grille, ce qui est tout à fait faux. Puis je pense qu'il y a des enseignants aussi que il y a une grande lourdeur associée à la grille, mais pourtant, moi, ce que je faisais souvent dans mon cours, c'est que je segmentais ma grille. Fait que pendant une semaine, j'avais juste un critère que j'évaluais, puis c'était tellement plus rapide.
Ah, oui,
des fois, les
ça.
Gens, ils pensent que, hey, t'as 8
faut
critères dans ta grille.
Les critères tout le temps, ben non.
Tout, effectivement.
Et voilà.
Si on prend l'écriture, dès que tu donnes une tâche d'écriture à un élève, c'est prouvé scientifiquement que l'élève tombe en surcharge.
Effectivement.
Il faut qu'il fasse appel au même moment à des compétences que, même comme adulte, on a de la difficulté à mobiliser au même moment. Il faut qu'il soit capable de suivre la consigne, de respecter le temps qu'on lui donne, de faire un plan. Il faut qu'il suive les règles de la langue. Il faut qu'il réponde à la structure demandée.
OK, je suis brûlée.
Il s'appelle aux bonnes connaissances.
Mais
pour
effectivement,
être
capable de
mais
non, mais c'est une réalité.
Mais en langue, vos grilles de langue, je pense qu'ils sont beaucoup plus touffues, mettons, je vais dire ça comme
oui,
ça, que nos grilles en maths et en sciences,
oui.
En tout cas.
En sciences, il n'y a pas de grilles pour le ministère, en passant. Hein.
Ah ouais,
ça n'existe pas.
Mais mettons là, que...
C'est quoi ça, des grilles?
C'est quoi ça, des grilles? De quoi il parle de
4-2-0.
mais mettons, je pense à un exercice que j'avais fait avec mes élèves que j'avais adoré, puis c'est plate parce que j'ai plus accès à mon drive de prof. On écrivait une description d'un personnage de bande dessinée. Et à place de leur faire écrire et de leur donner la grille, j'ai dit, on va écrire la description ensemble, on va l'observer, puis on va sortir la grille par la suite. Fait que là, on est allé, on a pris une BD que tout le monde savait c'était quoi, là, Tamara, là, c'était une BD de, pour les jeunes ados, là, une jeune fille, là, qui a une sœur, puis on a pris la BD, je l'ai mis en avant au tableau, je l'ai à côté, j'ai dit, mettons que vous aviez à me décrire le personnage Tamara. Qu'est-ce que vous feriez pour me la décrire? Fait que là, on a commencé à se prendre des notes sur ce qu'il y aurait dans notre description. Fait que là, on a comme modélisé ensemble un plan. Ensuite, fait que là, une fois à partir de ça, comment qu'on compose notre texte? Ah, ben là, on peut commencer par tout ce qui est physique, après y aller pour tout ce qui est, tu sais, dans sa tête, là, comment ça s'appelle, ça? Psychologique. C'est ça, le mot que je cherchais, madame, merci. D'après ça, tu sais, Tamara, elle a pas juste ça, là, tu sais, elle a une vie, là. Ouais. Comment qu'on pourrait appeler ça, sa vie? Ben, sa vie. OK, sa vie. Fait qu'on a construit une description. J'ai écrit exactement les phrases que certains élèves me disaient.
Mais c'est parfait, ça.
Ben oui. Après ça, on a regardé notre texte. Je l'ai lu à voix haute. Ils m'ont dit, mon Dieu, on dit souvent le mot Tamara. Je vois comment qu'on pourrait faire. On pourrait dire elle, OK, quand. Mais là, on peut pas juste dire ça, là. Faudrait aussi dire des fois, genre, la jeune adolescente. OK, comment ça tu sais qu'elle est adolescente? Ben là, lis-moi là. Pis... fait que là, ça a comme, mais ça a pris une période au complet, écrire la description, puis sortir. Bon, fait que mettons que je vous demande demain de me décrire un personnage de la bande dessinée que vous êtes en train de faire. C'est quoi une bonne description? Ben là, il n'y a pas juste ce qu'on voit là. C'est quoi le mot? Ben physique. OK, il y a des éléments physiques. Ensuite, ben il y a psychologique. OK, super. Puis il y a, ben, sa vie là.
Le social, c'est social!
Exactement. Fait qu'ils ont
autres,
fait...
je te jure, dans ma grille, j'aimerais tellement ça de la sortir. Là, j'ai mon
te laisser le sa vie.
J'ai marqué sa vie, guillemets, là.
C'est ça.
Fermé les guillemets. Puis j'ai écrit ce qu'il avait mis. Ses amis, sa famille, tu sais, puis que c'est une grande sœur qui est dévouée pour sa petite sœur. Puis j'étais comme, pourquoi pourquoi tu sais qu'elle est dévouée? Ben, elle l'amène partout. Si tu écris, ben non, mais là, tu le vois dans les images. OK. Ça, ça s'appelle de l'inférence.
Oui. Ben, c'est, j'adore le fait que tu as pris la peine là, de construire quelque chose.
Après ça, j'ai pris la grille du ministère. Puis je leur ai affiché au tableau avec la grille que nous, on avait montée avec le sa vie, là. Puis tout ça. J'ai dit la situation de communication, là. Quand il est écrit « situation de communication », ça réfère à ce que moi, je vous ai demandé, qui est la description de Tamara. C'est-à-dire que j'ai des éléments psychologiques, physiques et de sa vie, là.
Effectivement.
Oui. Ça fait partie de sa vie, là. Non, je te le dis. C'est drôle parce que...
Tu vas la refaire, cette grille-là, je pense.
Ben, je penserais pas qu'il y a des élèves qui m'écoutent, mais s'ils m'écoutent, ils vont s'en souvenir comment qu'on a ri cette période-là. Puis ça crée aussi le lien au-delà de ça.
Effectivement.
Le, de faire sortir. Puis
on aime ça, la relation. La relation, c'est la base d'apprentissage.
Et oui, puis c'est pas juste toujours la même personne qui a parlé, là. Il y en a plein qui ont parlé pendant cette période-là, là. Puis c'était beau ce que ça a créé. Puis après ça, quand ça a été temps d'écrire leur description, là, puis que je leur ai donné la grille, je leur ai même pas donné la grille du ministère parce qu'ils avaient tout ressorti. Ce que
puis ils étaient capables de s'en souvenir.
Exactement. Mais j'ai enseigné la grille, mais je l'ai vulgarisée pour des élèves de 12 ans qui étaient rendus après Noël, qui avaient déjà fait la description, mais plus au niveau scientifique. On était rendus dans le narratif et qu'on est dans la description de personnage, de comment c'est important les caractéristiques d'un personnage. Bref. Ils m'ont écrit des descriptions. Ils ont été capables de se faire de la rétro entre eux autres parce qu'ils comprenaient.
C'est l'exemple parfait.
Mais là,
parfait
il y a pas beaucoup de psychologique là, dans ton affaire. Là. Mais tout à fait. Je sais pas trop. Là,
c'est fait que c'est l'apprentissage durable et organique. Moi, je le vois comme ça. Là.
Puis, mais moi, je pense que quand les élèves, ils s'approprient les tâches.
Tout à fait. J'allais justement dire monter une grille d'auto-évaluation par eux-mêmes pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent retenir, comment qu'ils doivent s'impliquer, comment qu'ils doivent s'intégrer dans une classe. Ça aussi, ça va être une belle façon justement de contrer, ben pas nécessairement contrer l'erreur, mais en même temps le mettre de l'avant pour qu'ils apprennent où est-ce qu'ils étaient rendus. Puis tantôt, on avait parlé des différentes traces vis-à-vis de l'évaluation parce qu'on parle souvent de l'erreur, mais on parle pas nécessairement de l'apprentissage et l'accumulation des erreurs. Est-ce que, comment qu'on fait le suivi lorsqu'une erreur est faite, et là, on met des gros guillemets, que l'élève est capable visuellement de savoir à la prochaine fois, ah, je l'ai pas refaite, cette erreur-là, ou je l'ai faite, mais différemment, sous un autre angle. Fait ça aussi, ça, c'est important dans cet apprentissage-là. Ouais,
je pense que ça, c'est ça se passe traces, dans le rétro. Fait. Ben, c'est dans le rétro aussi, là, tu sais, de dire, l'élève, tu sais, l'idée, là, c'est qu'on veut pas qu'il répète une erreur plusieurs fois.
Tout à fait.
Peu importe laquelle c'est. Fait que c'est sûr que,
on veut
idéalement...
Qu'est-ce qu'on fait pour pas qu'il la refasse?
Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on veut pas qu'il la refasse?
Ouais, ben les traces, justement,
mais
c'est
non,
là
mais
qu'on...
qu'est-ce qu'on fait pour l'enseigner?
Ben, faut l'identifier. Ouais, ouais, faut l'identifier. Faut qu'elle soit mise de l'avant. Faut le mettre en lumière parce que c'est probablement pas le seul qui fait cette erreur-là non plus.
Effectivement.
Faut le mettre en lumière puis il faut trouver des façons de dire quand on enseigne aux élèves qu'on est de façon peut-être plus magistrale d'utiliser ces erreurs-là comme objet d'apprentissage. Moi, je pense qu'on l'a nommé tantôt. Je pense que ça, c'est super important.
Il faut faire attention au moment.
Oui, c'est ça. C'est de dire à quel moment on utilise ça. Mais il y a surtout aussi le fait que je pense qu'on est un peu responsable, nous, les profs, de continuer cette culture-là. Tu sais, des fois, quand on donne un cours théorique puis qu'on demande, on pose des questions à la volée aux élèves, tu sais. Puis il y a des élèves qui lèvent la main pour répondre. Puis on part bonne réponse, tu sais, c'est on a un peu la culture de l'erreur dans le sens où l'élève qui a pas bonne réponse, tu sais, mettons, il va dire une réponse, il va dire non. Puis là t'attends, tu sais, comme on attend la qu'un élève qui donne la bonne réponse.
Ça dépend, moi quand l'élève dit une mauvaise réponse, je fais non parce que t'as pensé à ça.
Non mais c'est ça.
Ça dépend des profs.
C'est le fine tuning de l'enseignement, ça, de dire ok, l'élève qui donne une réponse, tu sais, on est tout le temps là à que ce soit nous les profs qui donnons le OK ou dire oui, le oui ou non pour la suite. Pourquoi on lance pas ça toujours vers la classe puis que ça nous appartienne pas? Tu sais que l'erreur ou la non-erreur, elle appartient au groupe puis à la communauté d'apprentissage, de dire que ça m'appartient pas à moi de décider si c'est une erreur ou pas une erreur, de dire OK, Stéphanie, viens.
C'est
le temps, Stéphanie.
C'est parfait. Je l'accepte.
Elle vient de dire tel truc. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce que ça a de l'allure ce qu'elle vient de dire? Donc, on retourne ça. Là,
et le pourquoi?
Ben, c'est ça.
Ça, c'est la. J'aime bien le réseau d'apprentissage.
Parce que
c'est dur de montrer à une classe qu'on est dans un milieu d'apprentissage parce que c'est...
Résolution de problèmes constamment.
Mais c'est excellent ouais, mais ce que Jocelyn a dit, là, je veux dire.
Moi, j'adore ici, là.
C'est quand on anime, tu sais, on va comme, on veut prendre le chemin le plus court.
Effectivement.
On a un programme à passer. On est pressé. On a un programme à passer.
C'est incroyable. Okay,
on questionne les élèves. Mais est-ce qu'on questionne réellement les élèves? C'est ça la bonne question. Dire oui, non. Oh, on attend. Oh, tu sais, on attend juste la bonne réponse pour continuer notre enseignement. Fait que, tu sais, ça, je sais que ça résonne chez plusieurs profs de dire ah, ouais, ça ressemble à ça. Ce que je fais, là. Je l'ai faite, là.
Oui,
je ne pas que vous l'avez jamais. Ceux qui mais écoutent, non, là, dites-moi pas que vous l'avez jamais faite. Je l'ai faite.
Tu as fait participer les élèves. Il y a un élève qui a dit la réponse que tu avais dans ta tête.
Je sais pas, mais c'est venu, il fait des gros guillemets
ouais,
dans
c'est
les
ça,
heures
présentes.
Mais c'est vrai, c'est ça pareil. Tu sais, on s'attend à la bonne réponse.
Mais c'est
puis
ça.
Puis on attend d'avoir la bonne réponse pour expliquer pourquoi elle est bonne.
Oui.
Sans dire, attends pas, tu as donné cette réponse-là, mais. Pourquoi tu as
ouais, c'est ça. Pas... Les mauvaises réponses ne sont pas réutilisées. On fait juste dire non, non, non. Ah oui, OK. Là, on continue.
Effectivement.
C'est souvent. Oui. Tu sais, je dis pas que c'est le. On fait tout ça, mais c'est un
c'est
modèle
ce que ça,
quand même
pas,
qui existe.
Fait pas de façon malhonnête.
Oui, c'est
ouais,
ça.
Oui, oui, oui. Puis Laurie l'a dit, puis écoute, ça l'a fait casser mon miroir parce que c'est une réalité. En fait, on a eu même des invités avec elles qu'on avait discuté sur cet aspect-là. Cette espèce de. Je mets des guillemets de roche, de donner de la matière, de stress de la part des enseignants qui sont rodés à la minute dans le sens que, ben voyons donc, je peux pas faire l'auto-évaluation, je peux pas faire une rétroaction, c'est une perte
c'est
de temps.
C'est quoi la raison qu'ils vont te donner?
Le 18 mai, j'ai mon examen.
Effectivement.
18 mai, c'est de bonheur.
C'est ça.
Il faut que moi, comme prof, j'aille tout passer mon programme pour que le 18 mai, je puisse me dire, moi, j'ai tout vu ce que j'avais à voir dans ma classe, c'est que mon élève, s'il n'a pas appris, moi, j'ai...
Parce que je pense que la réussite de l'enseignant... Ben, en fait, c'est exactement ce que tu dis, parce que je pense que les... pas tous, mais il y a des enseignants que selon eux, la réussite de l'enseignant, c'est avoir passé sa matière.
Ouais.
T'sais, ils ont une mauvaise perception de la pédagogie où est-ce que, moi, la réussite, c'est... Crème, j'ai plus d'élèves qui ont passé cette année que l'année dernière. J'ai fait quelque chose de bien. Je vais prendre du recul. Je vais essayer, ainsi de suite. Mais il y en a beaucoup qui c'est, ah, ben, si t'as pas eu le temps de faire passer ta matière, c'est parce que t'es pas un bon enseignant. Fait que, tu sais, il y a, en fait, c'est une, c'est une stigmatisation qui est là, culturelle aussi, qu'on peut dire, où est-ce que.
On pourrait changer ça.
Tu sais, au premier cycle, en mathématiques, au premier cycle, c'est supposé d'être comme ça. Parce que t'es supposé d'avoir, son R1-2, que ça soit des apprentissages cycliques. Puis moi, j'avais déjà eu une classe très difficile, tu sais, très ferme. Puis j'avais dit au prof de 2, « Hey, j'ai pas eu le temps de faire ce dernier chapitre-là, mais j'ai mis l'accent sur les fractions parce que c'est plus important. » Le prof, il me regarde, il fait, « Ben là, ma planète va plus marcher. » Je fais, « Mais techniquement,
ben ça revient
je te dis exactement. »
Tu sais, c'est la culture de l'enseignant qui transpire vers l'élève parce que tu avais dit, on s'entend à ce que... sois capable de performer à telle date, à telle heure, puis si tu le performes pas, ben, tu vas faire des erreurs. Mais j'ai l'impression que ce stress-là, il est passé vers l'élève à travers l'enseignant, parce que l'enseignant, lui aussi, il se dit, ben, il faut que les élèves soient rendus à telle étape, puis s'ils sont pas rendus à telle étape-là, ben, c'est la panique totale.
C'est le prof qui a fait l'erreur dans son enseignement.
Exactement.
J'aime ça.
Puis sérieusement, je pense qu'il y a, globalement, là, tu sais, à cause de mon âge peu avancé.
Très jeune, très jeune.
Très jeune. Non, c'est pas ça. J'aime pas ça de dire que je suis vieux, mais...
Bon,
avec une certaine expérience, je veux pas dire que j'ai pas de sagesse. J'ai une certaine expérience. Ce que je me rends compte, c'est qu'on a des conceptions et en enseignement, on reproduit des choses, des fois sans trop se poser de questions. Et de dire en pensant que c'est la bonne chose à faire. Tu sais, par exemple, dernièrement, puis ça va me permettre de parler de l'erreur en même temps aussi, c'est le plan de rattrapage.
Oui.
Le fameux plan de rattrapage qu'on voit apparaître, tu sais, de dire, il y a plein de centres de services qui doivent mettre des choses en place pour faire le plan de rattrapage scolaire, tu sais, puis d'offrir des trucs. Mais souvent, en enseignement, les moyens qui sont mis en place, c'est de faire plus de temps avec les élèves. Mais on offre aux élèves le même modèle, c'est-à-dire comme en cours, souvent en cours de rattrapage qu'on voit avant, c'est-à-dire les élèves, ils font juste plus d'heures en mathématiques ou en sciences ou en français ou en anglais avec un modèle d'enseignement magistral. Donc, les élèves, ils ont eu 5 heures de cours, ils vont suivre 1 heure et quart, 1 heure et demie de plus d'heures d'école après les heures de cours normales, puis on s'attend à ce que les élèves réussissent.
Ben, mm-hmm. La première chose qu'on va dire en pédagogie, c'est que si jamais l'élève a de la difficulté, c'est de varier les approches.
Ben, tu sais, c'est ça. Fait qu'on dit, je trouve qu'on n'a pas
questionné.
Tu sais, dans les outils pour aider les élèves en rattrapage, je trouve qu'on n'innove pas beaucoup. Mm-hmm. C'est de dire qu'on a des élèves en difficulté, mais souvent, l'offre, tu sais, mettons, le buffet, il y a comme deux choix. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas beaucoup de choix pour les élèves. Puis, je trouve qu'on reproduit les mêmes erreurs souvent.
Mais et ça, je trouve ça très... que c'est des erreurs. Il y a personne qui, comme je l'ai dit tantôt, il y a personne qui est mal intentionné. Il y a
non,
ah non, pas du tout.
Tout le monde veut faire le mieux. Je pense que quand tu t'en vas en enseignement, c'est parce que tu crois en l'éducation, t'aimes les enfants, tu veux qu'ils réussissent. Mais moi, je pense que, comme tu as dit, on se pose peut-être pas assez de questions sur pourquoi. Je vais mettre, là, c'est moi qui fais des guillemets, mais pourquoi ils ne réussissent pas, dans le sens où mm-hmm. moi, j'ai des attentes comme enseignante parce que je sais qu'un élève de secondaire 1, à la fin de son cursus, devrait être rendu à tel moment, à tel endroit dans un apprentissage. Au lieu de me dire pourquoi il ne s'est pas rendu là, est-ce que j'ai quelque chose que je peux faire de mieux? On va mettre ça facilement sur le dos de plein de choses. J'ai manqué de temps. Il arrêtait pas de me mettre plein de sorties dans mon oral. Le parent n'était pas impliqué. Mm-hmm.
Il y a une pandémie.
L'élève n'était pas engagé. Tu sais, le gros mot, un élève engagé, c'est quoi, là?
Oui,
tu sais, effectivement. L'élève n'est pas engagé. Okay. Pourquoi un élève engagé? Ben, c'est un élève qui lève sa main, c'est un élève qui a le parent.
Ouais, mais ça part.
OK, mais c'est quoi ça. Le rapport?
C'est quoi, là, avec son apprentissage?
Exactement. C'est quoi un élève engagé? Il y en a des fois qui vont me dire, un élève engagé, c'est quelqu'un là, qui vient au récup, qui arrive à l'heure, qui a tout son matériel. Ça, c'est un élève là, qui est sa coche.
Ouais.
Moi, je dirais un élève qui m'apporte un cadeau à Noël. C'est un bon élève.
Oui, exactement. Alors,
c'est dans le cahier. C'est dans tous mes élèves pour apporter un cadeau en passé. Tous mes élèves. Non,
moi, j'aime beaucoup le vin rouge à Noël. Si vous voulez passer effectivement. Par examen, je vais te prendre un borsa haut.
Il est bon, hein?
Il passe bien.
Excellent. Mais tu sais, c'est le même principe. Mettons, moi, j'aime beaucoup la clientèle d'élèves en difficulté en mathématiques. OK? C'est ma clientèle préférée.
Puis, pourquoi?
Parce que j'aime la lumière des yeux quand ils apprennent.
J'ai l'impression que t'as comme une espèce d'espace pour les faire émerger d'un espèce d'océan impossible pour eux autres, mettons.
Mais en fait, tu peux avoir un plus grand impact. Sur
mais je pense que t'as l'impression d'être utile.
Exactement,
c'est l'impact
que tu
fais
d'être utile comme
enseignant. Finalement, je suis égoïste, mais... Non, mais c'est bien, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, mais
non. Non,
c'est vrai, tout ça. C'est quand même avec les maths SN l'année prochaine. C'est pas vrai, c'est une blague. Mais, tu sais, le premier critère d'évaluation en maths, c'est la conjecture.
Oui.
En compétence 2. Mais, la conjecture, là, j'ai des élèves présentement que, ils n'ont pas encore le cerveau développé assez pour voir l'abstraction de ça.
Est-ce qu'ils comprennent le mot conjecture?
Je l'ai vulgarisé, là, en passant.
Certaine que tu es bonne.
Et met des hypothèses, mais c'est très difficile d'évaluer. Puis c'est sûr à 100% que toutes mes élèves vont faire des erreurs là-dedans. Puis c'est correct. Même moi, j'en fais parce que. Je comprends même pas comment c'est un critère, là. C'est dur, là. C'est vraiment
mais,
dur.
Tu
veux, là.
Mais moi, je pense que Stéphanie, tu sais, là, le prof de maths à moi va sortir.
T'étais
un peu.
Prof de maths.
Le conseiller, ouais,
Il est pas d'accord, il aime ça, les conjectures, lui.
Je vais dire, non, c'est pas ça. C'est que la problématique avec ce type de tâche-là, c'est que les élèves en font pas. Fait que, tu sais, de dire, toi, t'arrives, ils sont arrivés en quatrième, cinquième secondaire, puis que c'est la première fois qu'ils font ce type de tâche-là. Il est là, la problématique. Puis pourtant, c'est écrit dans le programme depuis plusieurs années avant. Il est pas normal que ça soit toi qui mette les élèves devant une tâche.
Mais t'es d'accord que ça demande quelque chose au cerveau différent.
C'est ça qui est difficile.
Mais c'est comme s'il faut que tu fasses appel à des compétences avant même d'être rendu à les appliquer.
Et c'est pour ça que...
C'est spécial.
En fait, à la limite, c'est comme un type de tâche en particulier. C'est comme en français ou en anglais. Vous avez trois compétences, mais c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on développe
trois, mais...
Trois plus trois, ça fait six.
Excuse-moi, c'est parce
que... Trois en français, trois en anglais, OK.
Moi, j'ai rien dit.
Non, merci, Azra. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire, tu sais, vous avez des types de tâches associées avec chacune de vos compétences. Puis je dirais que ce critère-là, mettons, dans notre compétence 2 en mathématiques, ben oui, ça c'est vraiment un type de tâche en particulier. Tu sais, à la limite, j'irai pas jusque-là, mais ça pourrait quasiment faire partie d'une compétence à lui seul de dire, de travailler dans ce sens-là. Parce que, tu sais, là, les mathématiciens, leur travail, c'est un peu ça. C'est de dire, prouver des conjectures, puis d'avoir des théorèmes, puis c'est de faire des preuves. Oui, j'ai ça. Oui, mais tous les élèves, pour moi, peuvent être des mathématiciens.
Oui,
c'est ça. C'est d'accord pas mathématicien dans le sens de Pythagore. Là, oui, j'étais okay. Mais, pour moi, c'est tous des mathématiciens.
Descartes qui a vu sa mouche voler.
Oui, ça, tu l'as vu. OK.
Fait que, ben moi, en fait, je vais vous ramener un petit peu parce que le temps, il file. Et moi, j'ai le rôle
Ça fait juste 10 minutes qu'on parle.
Ben, je voulais revenir un peu sur l'ouverture que j'ai faite tantôt. On a fait un petit peu de coq à l'âne, mais en fait, on a resté sur le sujet quand même vis-à-vis comment qu'on peut suivre la diminution de l'erreur ou le changement de l'erreur auprès de l'élève. Comment qu'on peut l'aider à travers ça? Parce que c'est un élève qui a tendance à faire une erreur. On avait parlé des traces. On n'a peut-être pas rentré assez en détail dans la rétroaction. Quel type de rétroaction qu'on peut donner ou même impliquer l'élève, en fait, une rétroaction active, que j'aime appeler, pour lui faire réaliser et comprendre son erreur, je mets des gros guillemets, son processus d'apprentissage, comme Laurie, elle avait... Belle...
Puis de ne pas le démoniser.
Effectivement.
De faire en sorte, genre, regarde, j'ai regardé ce que tu as fait. Il y a ça, ça, ça.
Oui.
Telle affaire.
Parce que j'aimerais ça qu'on différencie. Ouais, on va parler beaucoup de célébrer l'erreur. Tu sais, on entend. J'ai l'impression que c'est comme à la mode dire ça. Là. On va célébrer l'erreur. Moi, je prends toujours du recul. Je suis comme, OK, c'est bien beau, célébrer l'erreur, mais comment fait comprendre? Effectivement, parce que c'est important de décortiquer cet aspect-là dans la rétroaction que, oui, c'est correct de célébrer l'erreur, je mets encore des gros guillemets, mais j'ai l'impression que ça s'arrête à ça. Fait, comment qu'on peut briser cette mode-là de célébrer l'erreur, mais plutôt...
décortiquer l'erreur, l'analyser.
Effectivement.
Mais ce que je rajouterais par rapport à la rétro, tu sais, le problème avec beaucoup de choses en évaluation, c'est que souvent, c'est pas planifié. C'est-à-dire, la rétro, là, faut qu'elle soit planifiée. C'est-à-dire que si on donne une tâche à faire aux élèves, il faut que je planifie comment je vais leur donner de la rétro sur cette tâche-là. Tu sais, il n'y a pas 28 000 façons d'aller de la rétro. En présence, audio, vidéo, écrit.
Rencontre.
Fait que tu sais, là, même en présence, ben c'est ça. Oui, en rencontre, ben c'est ça. Fait que tu sais, de dire, ça, c'est mes outils. Fait que là, c'est de dire, OK, si je donne une tâche à mes élèves, que peu importe la tâche, là, faut quand même que je planifie cette rétro-là. Fait que c'est sûr que moi, à un moment donné, je fais une annonce officielle, j'étais le plus grand paresseux de corriger des examens traditionnels avec mes élèves, un moment donné, d'écrire ses copies, c'est trop long. Fait que c'est sûr de la rétroaction audio puis de la rétroaction vidéo devient intéressante. C'est sûr que moi, j'étais un peu capoté. C'est-à-dire que j'arrivais à 7 heures le matin à l'école. Fait que j'avais des rencontres de rétro le matin, le midi, après l'école. Mais tu sais, ça, on peut pas demander ça à tous les enseignants. Non. Il faut trouver des façons pour donner de la rétro aux élèves. Parce qu'il faut, en fait, l'important, là, il faut leur donner l'information. Puis l'objectif, c'est de plus refaire ces erreurs-là.
Effectivement.
C'est ça qu'on veut. C'est-à-dire que n'importe qui, là, tu sais, par exemple, là, je regardais le plongeon aux Jeux olympiques, là. Tu sais, je veux dire, le jeune qui plonge, là, le coach est à côté, après, il sort de l'eau, il y a une rencontre avec
le
coach.
Il va y faire une rétroaction immédiate.
Même s'il a la médaille d'or, il va avoir une rétroaction.
Il dit one-on-one.
C'est pas bon. 25 c'est pas beaucoup.
Mais c'est pour ça, ouais, c'est ça. Mais
c'est
Mais c'est pour ça que la technologie. Écoute, on peut pas. Écoute, la technologie, elle est là, pas juste pour le fun. Là.
C'est pour automatiser. Ça permet de sauver du temps. Ouais.
Mais pas juste l'automatiser, c'est de dire oui, il y a des élèves. Par exemple, là, il y a des rétros qu'on donne à un élève. Je vais dire, ouais, cette rétro-là, j'aurais pu le donner à 5. Fait que c'est sûr qu'on peut faire de la rétro personnalisée, mais on peut faire de la rétro un peu plus généralisée, de dire, OK, cette rétro-là, sans nommer le nom de l'élève, mais je pourrais quand même juste y dire, ben, l'envoyer à ces 5 élèves-là, mais au moins, fait que j'ai quand même sauvé 4 rencontres individuelles avec des élèves, là.
Ben, j'ajouterais aussi
là-dedans, là, vraiment.
Oui,
le fait de la rétroaction, ça dépend aussi comment tu l'as fait. Tu sais, moi, j'aime bien le fait de analyser les erreurs. Et quand je fais une rétroaction, je décortique les styles d'erreurs, tu sais, qu'est-ce qu'on fait, et ainsi de suite. Donc, tu sais, oui, on peut, on sait qu'en enseignement, il y a plusieurs erreurs qui reviennent, mais faire la rétroaction de pourquoi tu as pensé à ça versus c'est comme ça, il fallait que tu le fasses, ça fait en sorte que l'élève est capable, puis moi, ma rétroaction est pas immédiate. Je laisse l'élève dire pourquoi tu as pensé à ça, puis qu'est-ce qui serait mieux. Mais on peut être très actif dans une rétroaction.
Souvent, une technique que j'ai vue, moi, j'ai vu des profs, là, tu sais, moi, je l'ai faite. À un moment donné, tu donnes une évaluation, tu fais une première correction et tu redonnes les feuilles aux élèves. C'est-à-dire, il n'y a pas de point. Tu te dis, écoute, si c'est pas marqué, OK. C'est pas bien, là. Tu sais, c'est tout changer le rapport qu'ils ont aussi à ça.
Effectivement.
Moi, j'écrivais OK. Fait que s'il n'y a pas d'OK à côté de la question, c'est tu as des choses à revoir.
Mm-hmm.
OK. Fait que là, il n'y a pas de rétro, mais de dire, t'as à vérifier. Je te dis juste, t'as une erreur là. Je veux dire, je voulais pas vérifier le cours passé si tu avais compris là. Je veux savoir.
C'est un apprentissage.
Tu sais, je veux dire, ben, c'est ça. C'est un apprentissage.
Aussi,
ben,
effectivement.
C'est ça. Fait que, tu sais, des façons de faire différentes.
Ça, c'est un excellent exemple concret, là.
Moi, je l'ai fait la même période. L'élève me le donne. Je fais, va voir ton numéro 4.
Ben.
Puis là, il revient, puis il est comme, ah, je l'ai trouvé.
Ça, là,
je fais, moi, je trouve ça parfait, là.
Ça, on entend, là, quand je parle de ça avec des profs que j'accompagne au quotidien, là. Voyons. C'est inéquitable, c'est inégal, c'est
on a ça on préfère un autre balade pour ça. C'est inéquitable.
Non mais c'est ça, mais ça fait partie. Non mais
ça soulève des questions.
Oui, mais attends, je prends une trace en passant. On va ton numéro 4, je prends une trace de l'élève a eu besoin d'un indice versus un.
Mais
tu
le sais, tu connais tes élèves. Tu sais, moi ce que j'aime de ce genre de rencontre là où est-ce qu'on discute là, c'est aussi que on va soulever des questions. On peut pas répondre à toutes les questions.
Non.
Puis tu sais, quelqu'un qui nous écoute, qui décide que moi, j'ai pas le temps de commencer à penser à ça, fait que j'arrête maintenant. Bonne fin de soirée. Non, mais c'est vrai. Tu sais, à un moment donné, c'est juste qu'il faut que l'enseignant ou l'élève ou le parent ou l'école vive un inconfort avec ça. Donc, il constate qu'il y a une différence entre ce qui est fait puis ce qui est constaté à la fin. Il faut qu'il y ait un inconfort qui naisse de ça.
C'est ça.
S'il n'y en a pas d'inconfort, il n'y aura pas de changement. Il n'y a personne qui va avoir le goût de s'embarquer dans prendre des traces différemment qu'avec un examen. Il n'y a personne qui va avoir le goût de s'embarquer dans modifier sa planification. Comme tu as dit tantôt, ben là, ma planif, elle ne marche plus.
Ouais.
Ben écoute, moi, je me dis, mais quelle bonne nouvelle.
Moi, je comprends pas qu'il n'y a personne qui a vécu un inconfort avec le 20-20-60 encore.
Ouais.
Pourtant, on aurait dû le changer il y a plus longtemps. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais non, mais tu sais, de dire les...
C'est la pondération des étapes, en passant pour
nous. Somme toute, avec cet enregistrement-là, j'espère juste que il y a personne ici, je pense, qui pense avoir tout compris puis avoir tout fait
de la bonne façon.
Puis au contraire, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on réfléchit. On a été inconfortable dans une situation.
Oui.
Puis on s'entreprend pour essayer de donner des pistes.
Oui.
Pour que les choses changent. Puis qu'éventuellement, les élèves qui sont dans nos classes fassent des apprentissages. Puis que les élèves pour qui c'est plus difficile, qui puissent tout de même avoir l'impression que c'est accessible pour eux autres, la fameuse réussite. Puis pour les élèves pour qui c'est plus facile, qui ne se sentent pas constamment mis de côté.
Oui, puis tu sais, c'est pas juste, on fait pas tout ça. T'sais. L'erreur, c'est pas juste pour les élèves en difficulté. Moi, je pense que nos élèves performants aussi, il y a moyen de les mettre devant des situations où... pas parce que c'est pas parfait, ben il y a moyen de trouver des défis à la hauteur d'un élève qui a plus de facilité à l'école.
Oui, exactement.
Pour lui permettre de cheminer au même titre que les autres. Là. Pour moi, ça c'est bien, bien important.
C'est juste de nourrir la personne où est-ce qu'elle est, elle est rendue, puis de s'assurer que nous, la façon dont on a de prendre des traces, de donner de la rétro, de donner un niveau, tu sais, mettons qu'on prend des couleurs, des
choses. Oui, effectivement.
Peu importe ce que tu tends. Que la personne qui le reçoit.
L'important, c'est qu'il y ait une compréhension derrière ça, puis une rétroaction.
Exactement, que ce soit clair entre tout le monde, le parent, l'élève et l'enseignant.
Oui.
Puis en lien avec ce que tu disais, Laurie, c'est que je rajouterais que, tu sais, j'entends souvent, tu sais, peut-être qu'avec la dernière négo, j'ai entendu beaucoup de, tu sais, la composition des groupes, tu sais.
Mm-hmm.
Moi, depuis que j'ai enseigné, là, je le dis depuis presque 30 ans.
Ah, tu l'as dit encore, t'étais vieux.
Des groupes.
La sagesse.
Ben non, mais. Non, mais j'ai jamais eu de groupe homogène de ma carrière.
Non, ça existe.
Ça existe pas, des groupes homogènes. Tu sais, de dire, ouais, puis là, il y en a, tu sais, ils vont dire, ouais, mais c'était plus homogène avant.
C'était juste qu'on prenait moins de temps d'analyser.
Oui, c'est ça.
Effectivement.
Et voilà.
En fait, il y a un aspect culturel de personnalisation aussi à travers ça, que ça l'a changé. C'est pas juste l'école qui a changé, le monde change.
Oui, c'est ça.
C'est sûr que les jeunes d'aujourd'hui sont pas les mêmes jeunes, puis tu sais,
on lisait l'Apologie de Socrate.
Puis
quand il écrit ça, c'était quand, là, l'Apologie Socrate? Là, il disait la même affaire que les jeunes d'aujourd'hui n'avaient pas de bon sens.
J'aimerais
quand même rajouter que l'erreur, c'est de dire avec nos examens ministériels puis nos examens, c'est de dire, oui, on a nos examens. Moi, j'ai accroché mon micro, moi, c'est... J'ai, avec, dans notre culture d'examens ministériels en secondaire, tu sais, même au primaire, on en a. Tu sais, de dire que souvent, je vois l'analogie avec les Jeux olympiques. L'école, c'est pas les Jeux olympiques.
Oui, effectivement.
On fait beaucoup avant avec le sport.
Mm-hmm.
Tu sais, de dire. Puis, tu connais, tu sais, des fois, mais là, on parlera pas ces fractions puis la bouffe, ça, c'est un autre sujet.
Vrai, là.
Mais il reste que, tu sais, par exemple, souvent, on voit dire, ben, tu sais, pour ces épreuves-là, on dit, faut les entraîner pour les épreuves. Je veux dire, quelqu'un qui court un marathon, là, jamais il court le marathon avant de courir le marathon. Quand vous regardez le vrai entraînement de marathon, tu cours... Non, mais c'est ça.
Tout à
t'sais,
fait.
C'est comme on...
Ça se passe dans
t'sais, quand je disais tantôt, on répète des choses, tu sais, comme des... Il y a des façons de faire qu'on répète d'année en année, qu'on ne sait pas pourquoi, puis c'est le genre de discours, des fois, je trouve qui nuit, tu sais, de dire c'est quoi la place de l'erreur, tu sais. C'est sûr que l'athlète olympique, s'il lance pas son lancer du poids, alors, comme il a fait, mettons, dans ses entraînements, ben, c'est ça, les Olympiques. Ben oui, mais c'est ça.
C'est
les
ça.
Olympiques, c'est ça. Nous, on est à l'école. Ouais. On n'est pas aux Olympiques.
Bon, là, avant, je veux pas vous couper, mais je vois le temps passer. Essayez. On va être rendu sur des sports, mais on arrive à la fin, puis c'est vraiment un sujet hyper passionnant. On voit qu'il y a une passion qui est là. En plus, on est tous ici des passionnés de la pédagogie, de l'apprentissage, de l'évaluation, du développement.
Passionné.
Donc, effectivement. Et vu qu'on est des humains avec des humains, ben nos auditeurs du stress aiment ça connaître un petit peu votre petit...
Oh, le top chrono!
On va poser des petites questions que on vous invite à répondre. En fait, des courtes questions rapidement, puis juste pour afin qu'on puisse vous connaître un petit peu plus davantage, parce que vous avez votre expérience, vous avez votre façon de faire, vous avez votre pédagogie qu'on adore. Mais là, on veut savoir un peu plus sur vous. Alors, on va commencer avec Laurie en premier et essayer de répondre de manière courte. Alors,
analysie.
Il nous reste encore un petit 5 minutes. Fait que, pour toi, Laurie, ça a été quoi ton plus grand apprentissage en éducation et dans ta carrière?
Ça a été de laisser plus de place aux gens avec qui je travaille. Parce que j'avais l'impression qu'il fallait pas que je fasse cavalier seul, mais qu'il fallait que je trouve les réponses par moi-même. Puis à un moment donné, j'ai décidé d'ouvrir les valves puis de rencontrer des gens qui me ressemblent, puis de m'inspirer de ces gens-là au lieu de comme juste penser qu'il fallait que je fasse toute seule.
C'est parfait, ça.
Je te disais que c'est ma grande... C'est plus que deux mots, mais...
C'est parfait.
Moi, mais c'est excellent.
J'aime bien, on cherche la communauté d'apprentissage là, qu'on essaie de mettre
en place. Oui,
c'est parfait.
Mais j'adore, c'est vraiment...
D'accepter.
Il faut le mettre de l'avant.
Oui, c'est ça.
Effectivement.
D'accepter, d'ouvrir, tu sais, de faire comme... J'ai pas besoin de tout faire ça toute seule. Il y en a sûrement qui ont pensé avant moi, là.
Ben là, on va voir Jocelyn, il a eu le temps d'y penser. C'était pas un top chrono pour lui, alors on va voir si...
C'est une réponse facile parce que c'est souvent, j'en ai parlé pas juste une fois, mais mon plus grand apprentissage, c'est d'avoir échoué mon premier stage en enseignement.
Ah, c'est intéressant. Parce que
j'ai failli ne jamais devenir prof de maths et de faire...
On t'invitera à quitter.
Oui, c'est ça.
Alors, ben, un apprentissage par l'erreur.
Ouais, par l'échec.
C'est un exemple.
J'ai appris par l'échec, ça a été le plus bel apprentissage que j'ai fait,
Quelle belle résilience, en fait, et persévérance qui t'a permis d'être...
Ça n'a pas été, je te dirais, quand c'est arrivé, je te dirais que ça n'a pas été la plus belle
semaine
de ma vie. Quand je regarde tout ce que j'ai fait depuis 10 ans...
Ça l'a... On va dire 10 ans. On a passé de 40 à 30 à 10.
C'est ça.
Excellent. Donc, Laurie, prochaine question.
Oui.
C'est quoi, en fait, ça a été quoi ton plus grand défi que tu as vécu dans ta carrière?
Mon plus grand défi?
Oui.
Ben, je vis présentement. En parler rapidement, ben, à l'École branchée, on est un petit organisme avec beaucoup d'ambition puis beaucoup de possibilités. J'imagine que vous comprenez oui. un peu de quoi je parle de votre côté. Fait que dernièrement, j'ai été propulsée avec des nouvelles responsabilités. Puis je dois faire appel à des choses que j'ai, ça fait longtemps qu'ils étaient auxquelles j'avais pas fait appel, mettons. Dans une ancienne vie, là, j'ai travaillé pour une plus grande entreprise où est-ce que je faisais plus de la gestion de projet, si on veut. Fait que c'est pas mal mon plus grand défi au niveau de ma carrière en ce moment, là, où est-ce que je dois faire preuve de confiance et d'ouverture. Fait que
c'est beau, ça.
Ouais.
Beau mais partage. Il y a peu de possibilités d'apprentissage là-dedans. Là. C'est beau aussi, là.
C'est le même que je le vois. T'sais, présentement, j'ai vraiment l'impression, des fois, je suis comme pas bien, puis je me dis, là, t'arrêtes pas de dire à tout le monde qu'il faut qu'il soit inconfortable. Fait que toi, tout soit là. T'sais, c'est comme...
Mais c'est un beau défi. C'est vraiment, un beau défi que je suis certaine que tu gères avec brio.
Ben écoute, je fais de mon mieux. Je fais des erreurs. Je les assume. J'essaie d'apprendre de ces erreurs-là. Puis je m'entoure de personnes qui m'aident, comme un peu j'ai dit à la première réponse, ça reste que... Ça
effectivement, je trouvais que j'allais justement dire ça se complète bien avec
ta première réponse. Oui, mais quand t'es mis devant des situations comme ça, après ça, t'es contente d'avoir...
Et toi, Jocelyn, ton...
Mon plus grand défi, c'est d'être à l'écoute, parce que j'ai pas toujours été... Disons que j'étais un gars qui drive pas mal, fait que tu sais, j'étais comme écouter ce que je dis, mais moi, j'écoute pas ce que vous dites. Fait que,
mais c'est bien, au
c'est
moins.
Être tu à travailles l'écoute, dessus. C'est mon... Oui, je travaille...
Avoir une ouverture.
De l'ouverture. Ben, ouais, de l'ouverture aussi.
Je pense que c'est ça aussi, ouais.
J'avais tendance à penser, début de carrière, là, puis quand j'étais comme, mon idée était faite, c'était comme, si tu me suis pas, c'est que...
C'était-tu un manque de confiance ou un surplus de confiance?
Ouais, je sais pas. Ça peut être
c'est
ça. Mais être à l'écoute. Et c'est un défi tous les jours.
Dernière question, on va commencer avec toi. Justement, vu que tu avais eu... En fait, qu'est-ce qui te fait sourire?
Qu'est-ce qui me fait sourire, Laurie?
Ah!
Travailler avec Laurie, non, mais c'est...
Ça commence!
Ça commence bien,
Laurie, la barre est haute, hein? La barre est haute.
Mais je l'ai dit souvent, qu'est-ce qui me fait... Ben, mes filles me font sourire aussi, mais, tu sais, sérieusement, dans le cadre du travail, mettons que je dis ça comme ça, c'est que travailler avec Laurie, tu sais, ça me... j'ai parlé beaucoup que ça fait un bout de temps que je traîne ma bosse, tu sais, puis ça fait plusieurs années que je me commets en éducation, puis Laurie est arrivée dans les dernières années, puis ça a comme donné un boost, puis c'est vraiment le fun de...
Ben, c'est
de,
génial. Quelle belle reconnaissance!
Puis... C'est vraiment gentil. Tu te branches sur Google Meet, puis je m'épache de yeux, genre. Ah! Ça doit être drôle.
Ben là, on va voir qu'est-ce qui te fait sourire, Laurie. Est-ce que c'est Jocelyn qui te fait sourire?
Ben oui, absolument. Mais tu mets ton au-delà de Jocelyn.
Ouais,
j'allais justement dire, il t'a mis la barre haute.
Moi, c'est ça. Mais ce qui me fait sourire... C'est tantôt quand t'as dit, tu sais, quand tu vois des élèves dire « Mon Dieu, madame, j'ai compris les conjectures. » On va revenir à... Mais je donne de la formation maintenant pour des profs, tu sais. Puis quand je m'assois avec quelqu'un, puis qu'au début, il n'était pas sûr. Parce que, tu sais, on parle beaucoup du numérique. Puis tu sais, tantôt, on a nommé beaucoup de problématiques. Puis j'ai tendance à penser que les outils numériques peuvent vraiment, c'est tout, venir nous aider à aller vers une solution. Peut-être pas la solution à tout. Tu sais, quand tu t'assois avec un prof en formation, ben, qu'il est là, puis qu'il vient te voir à la fin, puis qu'il te dit, moi, quand je suis arrivée ici, là, j'étais pas sûre pantoute, mais là, je pars avec plein d'idées. Ça, là, ça me fait vraiment sourire, parce que c'est vraiment le pourquoi je fais mon travail.
De ton rôle, oui, effectivement.
Ouais, moi, quand j'arrive devant des gens, puis que j'arrive pas là en pensant que j'ai tout compris, au contraire, c'est que je pense qu'ils ont tout le potentiel en eux, puis que des fois, il faut juste s'arrêter pour prendre le temps, puis comme virer nos yeux à l'envers, puis regarder à l'intérieur. Fait que quand je me dis, j'ai réussi à y montrer qu'il pouvait être dans sa classe comme il avait envie puis de vivre des belles choses avec ses élèves, que son métier, c'était pas juste un manque de temps puis une lourdeur de tâche, mais que c'était de comme juste vivre des belles réussites lui aussi. Ça me fait sourire.
Vivre le travail avec les humains.
Sincèrement,
non, mais c'est émerger le potentiel, la lumière, là.
La lumière. Puis tu sais, je dis souvent que moi, j'aime ça en éducation, créer des guirlandes de lumière d'affaires. D'ailleurs, j'ai demandé à Audrey, ma DG, Audrey, je veux des chandails avec des ampoules, mais tu sais, je dis tout le temps que le but, c'est comme de faire en sorte que tout le monde soit allumé, qu'ils comprennent pourquoi ils sont là, puis qu'il y ait des pratiques qui les allument. Tu sais, de travailler avec Jocelyn, c'est sûr que ça m'allume parce que on va s'appeler le samedi matin, j'étais en jaquette, qui est en pyjama, puis on se dit, j'ai trouvé comment faire la formule dans Google Sheet, que finalement, telle affaire, tu sais, d'avoir du monde.
Ouais.
Ça
vient passionné, en fait.
Je
suis content
que j'étais en jaquette, moi aussi.
Oui, oui, effectivement. Ben, je
il manquait son pyjama de Batman.
Mais c'est ouais, très beau, en fait. Ça ramène un peu ton cœur passionné de pédagogue. Ben, dès le départ, de la jeune fille qui est partie à l'université, ça
oui,
part en
à
faux
la
de
base, tout à fait. J'ai travaillé pour les humains, puis là, j'étais allée travailler avec les jeunes. Quand, mm-hmm. quand j'ai vu des adultes qui avaient aussi besoin, tu sais, les profs, on les aime, on veut qu'ils restent dans le système, puis on croit en ça.
Effectivement.
En fait, la contrainte, c'était peu de mots, là.
Oui, ouais, mais moi, je suis pas capable de faire
ça. Je vois ça.
Ben,
vois,
oui,
ça,
effectivement. Alors, je voulais prendre le temps de vous remercier. Sur ça, on va
oui,
prendre une bonne
beaucoup.
Note. Merci d'avoir accepté l'invitation. On est super heureuse que vous avez partagé vos expériences, vos connaissances également et votre cœur. Donc, on vous remercie beaucoup. Au plaisir de se voir dans un autre balado. Et pour tous vos besoins en évaluation, allez voir zelexio.com. Merci, à la prochaine.
Merci, merci.
Tant mieux. Car elle pourrait tout aussi bien en avoir deux. Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur. Garder sa bonne humeur, garder sa bonne humeur. Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur. C'est ça le secret du bonheur.